Actes, au chapitre 5 et au verset 33 à 42.
L'auditeur voudra bien se reporter à sa Bible pour la lecture des textes cités sur cette cassette.
Nous voyons ici l'intervention d'un membre du Sanhédrin nommé Gamaliel. Ce Gamaliel, nous le connaissons aussi par ailleurs, puisque l'apôtre Paul nous en parle. Il a été son élève. C'était un homme sérieux, sage, pieux, estimé de tout le peuple. Et il intervient pour calmer la fureur des juges. En effet, au verset 33, furieux de ses paroles, il voulait les faire mourir. Et Gamaliel, voyant cela, voyant cette fureur, et sentant planer la mort dans l'air, se lève et incite ses collègues à réfléchir avant d'agir. Il y a des précédents, dira-t-il, dont il faut tirer la leçon. Tous ceux qui se sont présentés en leur nom et qui ont essayé de former de nouvelles sectes ont échoué. Ceux qu'il nomme ici étaient des gens qui se donnaient, en effet, pour le Messie. Jésus les a appelés dans l'évangile de Jean, chapitre 10, des mercenaires. Mais si l'œuvre des apôtres vient de Dieu, personne ne pourra la détruire. Et le conseil de Gamaliel est sage, ne risquez pas d'avoir combattu contre Dieu, et implicitement parce que c'est peut-être vous qui seriez détruit. Certaines personnes ont reproché à Gamaliel de ne pas être allé plus loin, et notamment de ne pas avoir fait état des signes et des miracles qui constituaient une preuve certaine de la messianité de Jésus. N'oublions pas que ces signes et ces miracles et ces prodiges dont il est question se produisent sur ceux qui viennent vers l'Église, non pas dans l'Église, non pas au milieu des membres de l'Église, au profit des membres de l'Église, mais ceux qui viennent vers l'Église. Ceux qui sont dans l'Église sont tous en bonne santé. Mais Gamaliel n'avait pour lui, bien sûr, que la sagesse et non pas la puissance du Saint-Esprit. La tradition a affirmé que Gamaliel, ainsi que son fils, étaient venus plus tard au christianisme, en même temps que Nicodème, et qu'ils auraient tous trois reçu le baptême de la main des apôtres. Ces choses, tout à fait plausibles, mais évidemment, ça n'est pas une information absolument certaine, puisqu'elle ne figure pas dans l'Écriture. Gamaliel use cependant d'autorité en déclarant au Sanhédrin qu'il ne pourra jamais détruire l'œuvre des apôtres s'il s'avère que cette œuvre vient bien de Dieu. De plus, il a bien senti que la minute était grave et que les apôtres risquaient d'être condamnés à mort. La mort des apôtres aurait eu de graves conséquences pour l'Église, et je pense que le Saint-Esprit s'est servi aussi de cet homme, car on ne le sait pas toujours, le Saint-Esprit utilise aussi des instruments qui sont encore en dehors de l'Église. Cyrus, par exemple, autrefois, qui était un roi païen, eh bien, Ésaïe, ouvrant la bouche pour le Seigneur, l'appelle son serviteur. Cyrus est le serviteur, or Cyrus a existé, c'est même quelqu'un qui, d'une façon un petit peu exceptionnel, il n'y a que deux exceptions dans l'Écriture, a été nommé par son nom, Cyrus, une centaine d'années environ avant de naître. Ésaïe l'a nommé avant qu'il ne naisse, Cyrus. Dieu lui a parlé alors qu'il était encore bien loin d'apparaître. Il arrive donc que le Seigneur se serve d'instrument. Le beau-père de Moïse, Jéthro, a servi aussi d'instrument de sagesse pour inviter Moïse lui-même à rechercher des voies de sagesse. Et Moïse s'est incliné. Pourtant, c'était Moïse qui avait sur lui l'Esprit de Dieu. Oui, mais c'est son beau-père qui était sacrificateur de Madian et qui va lui dire ce qu'il faut qu'il entende pour changer un peu ses méthodes. La mort des apôtres, donc, aurait eu de graves conséquences pour l'Église, et l'heure de cette mort n'était pas encore venue. L'Église était en pleine éclosion, elle était ce bel enfant qui devait être soustrait à la haine des hommes, comme Jésus avait été soustrait à la haine et à la férocité d'un Hérode. Et alors les apôtres sont relâchés, battus de verges. On se demande ce que vient faire cette sanction. Mais enfin, c'était ainsi l'habitude. Même si l'on n'avait pas de grief bien arrêté, si on relâchait des gens qui avaient comparu, on les battait de verges. Déchirés par les verges, les apôtres se sentent cependant heureux et privilégiés. Ils avaient été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et ici, bien sûr, la parole de Dieu nous adresse une question. Et cette question, nous pouvons lui donner une forme. Nous-mêmes, est-ce que nous regardons non pas toujours, bien sûr, les menaces de mort, mais disons, les simples humiliations, sans même aller jusqu'à cette sanction corporelle des verges, mais si, est-ce que nous regardons les simples humiliations comme un privilège, et en sommes-nous heureux des humiliations que nous subissons au nom de Jésus, ou bien en sommes-nous fâchés? Ou bien en sommes-nous irrités? Ou bien regimbons-nous? Je me rappelle toujours cette personne qui avait subi, chrétienne, qui avait subi une humiliation de la part de quelqu'un qu'elle évangélisait. C'était un peu moqué d'elle. C'était une dame. Elle lui a dit, moi si j'étais votre femme, je prendrais la vaisselle, je vous la casserais sur la tête. Voilà comment elle a réagi. Je ne sais pas si c'est là vraiment la réaction d'un bon témoignage, n'est-ce pas? Eh bien, mais il arrive souvent, hélas, qu'on ne supporte pas une humiliation, simplement une humiliation. Même si elle n'est pas au nom de Jésus, elle est tout de même faite à un témoin de Jésus, et elle doit être supportée. Elle doit être supportée. Et s'il faut un peu humilier son cœur, ça fait du bien, ça. Nous en avons le plus grand besoin d'humilier notre cœur. Et par conséquent, de laisser agir les circonstances qui nous humilieront. Le Seigneur le veut, le Seigneur le fait, pour notre bien. Nous aimons dire souvent, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais à la première incartade, bing, ça ne va plus, on réagit. Non, chers amis, il faudrait apprendre cela. C'est quelque chose à mettre en pratique, c'est quelque chose à découvrir sur le plan pratique. Accepter les humiliations. Je me rappelle dans une petite ville, c'était à Nyons, c'est pas très loin d'ici, là, un peu à l'écart de la vallée du Rhône. J'avais fait une réunion un soir et il y avait un gaillard qui était là. J'avais un peu repéré dans la salle parce qu'il avait des yeux brillants et fixes. Et alors après, il est venu me trouver Et puis il m'a dit, monsieur, ne veux que vous avez dit, je trouve que c'est mal, c'est pas ça, vous prêchez comme un curé, il m'a dit. Et il m'a dit encore, il y a des curés qui prêchent mieux que ça. Alors, je lui ai dit, mais mon ami, écoutez, là on fait une chose. Si c'est le Seigneur qui vous dit de me dire ça, je l'accepte. Si ça vient de vous, je l'accepterai aussi. Ne m'en formalise pas. Mais vous, vous devriez savoir si c'est de Dieu, la part de Dieu que vous me dites ça. Enfin, voyez, j'ai voulu le prendre tout à fait du bon côté. Vous savez, je n'en étais pas du tout vexé. Je lui ai dit, dans le fond, vous avez peut-être raison. Je lui dis, mais vous savez, si la prédication, vous savez, une prédication, c'est quelque chose d'assez susceptible. Vous étiez là, et vous aviez un mauvais esprit, un esprit de contestation. C'est vous qui m'avez peut-être gêné dans la prédication. Mais enfin, nous avons dit tout ça n'est-ce pas? Et effectivement, c'était ça. Alors après, je suis monté en voiture avec lui, on est allé faire une course, hein. J'étais dans l'arrière de la voiture avec lui, nous avons causé, et puis cet homme est venu à de meilleurs sentiments. Pourquoi? Parce que je ne m'étais pas fâché, et parce que j'avais accepté sa parole, et dans le fond, ça fait du bien d'être humilié, ça fait du bien. Et bien entendu, la sagesse opportune de Gamaliel n'est pas à prendre en exemple pour généraliser le mode qu'il a adopté, ce mode de sagesse, et la modération dont il a fait preuve. Cette modération était sans doute la seule efficace devant le Sanhédrin, qui, bien sûr, se fut soulevé vigoureusement si Gamaliel, l'un des membres du Sanhédrin, s'était mis à annoncer « Christ sauveur, Seigneur et sauveur, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité, comme l'a fait Pierre ». Mais Pierre l'avait fait, ça, avec la puissance du Saint-Esprit, devant le Sanhédrin. Et il n'appartenait pas à Gamaliel de le faire là. D'ailleurs, il ne pouvait pas, il n'avait pas ce message-là. À ce moment-là, tout au moins, et puis d'un autre côté, il n'aurait pas réussi à apaiser la fureur de ces hommes. Mais seulement, ne généralisons pas. Méfions-nous d'ailleurs toujours des généralisations. Elles sont très dangereuses. Il y a des choses qui se produisent une fois, deux fois. Jésus a marché sur les eaux et personne ne nous dit d'aller tenter cela. Ben oui, mais il y a des gens qui se sont crus très armés, très forts dans le Saint-Esprit, mais je vous assure, je ne plaisante pas, et qui sont allés sur une pièce d'eau, disant, nous allons par la puissance du Saint-Esprit marcher sur l'eau. Et ils se sont enfoncés dans l'eau. Quand on veut agir sans le Saint-Esprit, mais c'est ce qui se passe. Si le Seigneur Jésus, et qui a été placé par le diable, car c'est bien par le diable qu'il a été placé sur le haut des portiques de Salomon. Les portiques de Salomon étaient en abrupte sur la roche, et il y avait peut-être déjà ce mur de soutènement, bon, peu importe, mais il y avait là une hauteur très grande, c'était l'endroit qui était le plus élevé, là, du temple sur le bas. Et c'est là que le diable conduit le Seigneur Jésus. Et nous croyons que le diable a conduit le Seigneur Jésus sur ce point-là, sur la toiture des portiques. Et il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, parce que tu sais bien, il y a un psaume, je vais te le citer. Il est dit dans ce psaume que les anges te porteront et ralentiront ta chute de façon à ce que ton pied ne heurte pas, de façon à ce que tu ne te blesses pas. Citation du diable. Pourtant, c'était vraiment la parole. Eh bien, le Seigneur Jésus, bien sûr, repousse cette suggestion de Satan, mais s'il s'était jeté sur la suggestion de Satan, il se serait écrasé. La promesse de Dieu n'aurait pas joué. On ne fait pas jouer les promesses de Dieu n'importe comment. Il faudrait que nous apprenions ça aussi dans l'Église. On ne les fait pas jouer n'importe comment. On ne les fait pas jouer au gré de la chair. On les fait toujours jouer sur une direction du Saint-Esprit. Il faut que l'on ait en son cœur une direction du Saint-Esprit. Donc, Gamaliel est tolérant, mais la tolérance est une position que Satan lui-même conseille afin que Christ ne soit pas annoncé comme fils de Dieu et comme sauveur. Oh oui, il y a des moments où le diable sait répandre une sagesse à lui. Il faut être sage, il faut être raisonnable, il faut être tolérant. C'est si beau pour un homme d'être tolérant, la tolérance. Je voulais, oui, vous citer Luc 12, verset 8. « Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. » Et puis, dans Matthieu, c'est « renié devant la face de mon Père ». Voilà qui est grave. Et savez-vous ce que Jésus appelle « renié » ? Eh bien, « renié », c'est non seulement renier, si vous voulez, positivement, d'une manière positive, mais même renier par abstention. Et lorsqu'on s'abstient alors qu'on devrait annoncer Jésus-Christ avec, bien entendu, la puissance du Saint-Esprit, avec la joie dans le cœur, simplement, sans mots excessifs, eh bien, lorsqu'on s'abstient, on renie le Seigneur. Alors, vous voyez que la tolérance est loin d'être quelque chose qui soit enseigné. Je sais bien qu'il est question de tolérance dans l'Épître aux Romains, mais attention, le mot est dans une suscription. Il n'est pas dans le texte inspiré, dans une suscription. Ce n'est pas la même chose. Ce que conseille l'apôtre, ce n'est pas pareil. C'est d'être sage à l'égard de ceux qui sont faibles en la foi, qui sont de tout jeunes enfants, des chrétiens venant naître, et de ne pas surtout être pour eux une pierre d'achoppement. Ce n'est pas la même chose. Nous arrivons au chapitre 6, et nous allons voir les 6 premiers versets. Voilà, encore l'Église, en voie d'accroissement, elle augmente. Nous avons plusieurs mentions, nous en aurons encore une autre dans ce chapitre. Le nombre des disciples augmentait, toujours. Combien compte l'Église maintenant, on ne peut le dire, mais un nombre déjà respectable de milliers d'êtres humains. Seulement, avec cette augmentation apparaissent des problèmes d'ordre pratique qui deviennent difficilement solubles. Conserver une stricte équité dans la distribution des dons, de l'argent qui était apporté aux pieds des apôtres, conserver l'équité était chose devenu, pour ainsi dire, impossible, tant que seuls les 12, les apôtres, auraient à charge les besoins matériels ainsi que les besoins spirituels de la communauté. Faire les deux choses était beaucoup trop lourd pour les apôtres. Ils sont débordés du côté matériel comme ils l'ont été du côté de l'action spirituelle. Alors, il est question ici des veuves des hellénistes. Les hellénistes ne sont pas des païens, il n'y en a pas encore dans cette église de Jérusalem. Les hellénistes sont des juifs, tout comme ceux qui habitent Jérusalem, mais ce sont des juifs de la dispersion, c'est-à-dire des juifs qui s'étaient déjà répandus dans d'autres nations. Ils ont vécu, sont même nés, pour presque tous, ils sont nés au milieu des Hellènes, c'est-à-dire des Grecs. Et ils en ont les usages, la langue, et même, quelquefois, la nationalité. Rappelons-nous le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas, où il y a là beaucoup de Juifs qui sont attirés à Jérusalem, car c'était la Pentecôte juive également. Et il y avait là des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, et qui parlaient les langues de ces pays-là. Dans les distributions quotidiennes, les veuves de ces hellénistes juifs avaient été un peu oubliées. Je ne pense pas, ça n'est pas dit que cela ait été le résultat d'un mauvais vouloir ou d'une mise à part de ces veuves, mais pour des raisons qui ne nous sont pas dites, elles ont été oubliées. La distribution était certainement imparfaite, nous allons voir d'ailleurs qu'il ne pouvait pas en être autrement. Les plaintes, des plaintes s'élèvent à ce sujet et elles sont aussitôt acceptées par les apôtres. Il y avait là une injustice, et une injustice devant Dieu, que la communauté ne pouvait pas conserver. Mais alors, c'est par la division du travail, par la division des tâches, que la solution est trouvée. La multitude des disciples est convoquée. Autrement dit, c'est une assemblée plénière qui est convoquée, une assemblée de toute l'Église. Il devait y avoir du monde, pas tous ceux qui ont répondu à l'appel, mais certainement la grande majorité. Et les apôtres proposent une solution, celle de désigner 7 hommes qui assureront ce qui est appelé le service des tables. Il n'est pas convenable que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ce service des tables n'est pas comme celui qui s'opère ici dans notre maison. À midi, il y a des personnes dévouées qui se dévouent. Pensons d'ailleurs que ces personnes se dévouent et ayons à leur égard, je dis ça en passant entre guillemets ou entre parenthèses, ayons à leur égard beaucoup de prévenants. Il est arrivé quelquefois que certaines personnes aient manqué un peu d'égard et de prévenance. C'est là quelque chose qui n'est pas bon, n'est-ce pas? À l'égard des personnes qui servent, elles le font par dévouement pour la cause de Dieu. Je le reconnais hautement. Et par conséquent, n'est-ce pas, soyons heureux qu'elles soient là. C'est le Seigneur qui pourvoit en toutes choses. Eh bien, on a pensé que le service des tables dont il s'agit ici dans notre texte, c'était ce service qui consistait à passer les plats, à donner la nourriture au moment des repas. C'est pas ça du tout. Absolument pas ça. Ce service consistait en ceci. Chaque jour, à l'heure du culte, on rassemblait les aumônes, les dons, tout ce qui était apporté par les membres même de l'Église, tout ce qu'ils apportaient, s'ils avaient vendu des biens, des propriétés, ils en apportaient le prix, et tout cela faisait du volume, parce que, vous savez, à ce moment-là, tout était en pièces sonnantes, espèces sonnantes, et ça faisait du volume. On apportait même certainement, non seulement des pièces, mais des métaux, du poids, qu'il fallait jauger en poids, et puis on apportait même des dons en nature. Alors, imaginez une église de, je ne sais pas moi, 20 000 personnes, y compris les femmes, qui amènent, n'est-ce pas, tous ces dons au moment du culte. Il y avait là un stock de pièces, de monnaies, de métaux, de dons en nature, etc. Et il s'agissait alors de compter, non seulement de compter, mais d'évaluer tout cela. Et il s'agissait d'en faire une juste répartition entre toutes les parties prenantes. Vous voyez, et il y avait même dans les monnaies diversité de monnaies. Il fallait faire attention à la valeur de ces monnaies pour être juste, voyez-vous. Alors, c'était vraiment un travail considérable. Et telle sera la fonction des diacres de s'occuper de tout cela et d'en faire une juste répartition entre des milliers de parties prenantes. Et tous les jours, cela tous les jours. C'est pourquoi des diacres sont désignés, il y en a 7, et il faut bien ce nombre-là. Et les diacres ne vont pas seulement procéder à la distribution au moment du culte, mais ils vont déjà faire leur évaluation auparavant, et puis ils vont tenir en quelque sorte des rôles, des sortes de rôles, des personnes à qui il faut donner. Probablement que les veuves des Hélénistes n'avaient pas été couchées sur des listes, des rôles. Alors il faut qu'ils tiennent des rôles pour que la distribution soit équitable. Mais cela va permettre aux apôtres de cesser de délaisser la parole de Dieu, car ils étaient obligés de délaisser la parole de Dieu pour s'occuper de ce travail. Et ici, les apôtres vont découvrir leurs limites personnelles. Tout serviteur de Dieu a des limites personnelles. Le Seigneur Jésus a montré lui-même, quand il était sur terre, dans son corps, les limites, ses limites personnelles. Il a eu besoin de s'arrêter, il a eu besoin de se reposer. À un certain moment, il a conduit ses disciples à part pour qu'ils se reposent. Il y a des limites, et ne pas les connaître, les amis, vouloir les outrepasser, comme je l'ai quelquefois entendu dire, parce que le Saint-Esprit est capable de nous fortifier, de nous donner des capacités qui dépassent les possibilités humaines, je dis que c'est une provocation. Il arrive des cas où le Saint-Esprit donnera de dépasser les capacités humaines, c'est vrai. Mais d'une manière générale, il n'en est pas ainsi. À chaque jour suffit sa peine. Parce que ce ne serait pas une sagesse de la part de Dieu. Et Dieu est sage, toujours très sage, infiniment sage. Ce ne serait pas une sagesse parce que l'homme finirait par s'enorgueillir. Vous voyez le mal qui guette l'apôtre Paul. Et le mal est si réel que Dieu met un ange auprès de lui qui, de temps en temps, lui donne un petit soufflet pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Au sujet d'ailleurs de cette écharde de l'apôtre Paul, laissez-moi vous dire que l'interprétation selon laquelle cette écharde serait une maladie que l'apôtre Paul aurait traînée comme ça pendant longtemps, et par le moyen de ce prétendu cas, on arriverait, ça je l'ai entendu combien de fois, à démontrer que, vous voyez, le Seigneur ne guérit pas toujours, n'est-ce pas, sa volonté n'est pas toujours de guérir, et sa volonté est quelquefois de laisser les gens patauger dans leur maladie. Ce n'est pas vrai. L'écharde de Paul n'est pas une maladie. Je ne vais pas en faire la démonstration maintenant, bien sûr, mais il y a eu un excellent article qui a été publié il y a quelque temps dans un organe chrétien. Je suis tombé dessus. En général, le Seigneur me fait toujours tomber sur quelque chose d'intéressant. C'est vrai, je remarque ça, je remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Quand il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'il y a tellement de choses qui sont écrites et on ne peut pas tout lire, n'est-ce pas? Eh bien, je suis tombé là-dessus, il y a vraiment là un article qui donne une étude très exacte, très bien faite, par un pasteur que je ne connais pas, sur un pasteur de plein évangile, sur les chardes de Paul. Et il montre ce qu'est les chardes de Paul. Et il se sert très intelligemment, d'ailleurs, de la valeur des mots grecs pour y parvenir, mais c'est quelque chose de très bien. Alors, ne colportons pas cette sottise selon laquelle les chardes de Paul est une maladie. Non. Et si Paul a été un instant affligé de quelque maladie, à l'œil notamment, à la vue notamment, le Seigneur l'en a guéri. C'était pas ça les chardes, c'était tout autre chose. Alors nous allons noter trois choses concernant ces six versets, six premiers versets de chapitre 6. Nous allons noter premièrement que les conditions à satisfaire par les hommes qui sont désignés pour être diacres sont précisément celles qui sont indispensables à ceux qui exercent un ministère de la parole. Voyez, cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, mes amis, il doit toujours y avoir un bon témoignage des chrétiens, même de la part des ennemis, un bon témoignage. Des hommes qui soient pleins du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, et non seulement du Saint-Esprit pour la puissance, mais du Saint-Esprit pour la sagesse. La sagesse. Et si le disciple du Seigneur n'est pas vraiment rempli de sagesse, je ne sais pas comment il peut imiter son maître, je ne sais pas comment il peut le suivre. Il faut qu'il soit rempli de sagesse. Et alors, on a trouvé, en effet, cet homme, et notamment Étienne, qui était plein de foi et d'Esprit Saint. Notons donc que ces qualités-là, ces conditions, sont indispensables à ces hommes, même pour une besogne matérielle. Et je vous étonnerai peut-être en vous disant que même pour assurer des fonctions peut-être encore plus matérielles, par exemple pour nettoyer la salle de réunion de l'Église, pour s'occuper de différentes autres tâches matérielles, il faut aussi être rempli du Saint-Esprit de sagesse. Ça vous étonne? Ça peut vous étonner. Eh bien non, je ne redirai pas l'exemple que j'ai déjà cité ici, mais j'en connais des exemples, n'est-ce pas? À certains moments, des personnes chargées de tâches matérielles ont eu à besoin de la puissance du Saint-Esprit. Le besoin peut très bien s'en faire sentir dans l'accomplissement d'une tâche matérielle. Et puis, deuxième observation, l'installation des élus. L'installation des élus, au verset 6, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Prière, toujours prière, et les prières n'étaient pas courtes, on priait un bon moment pour ces hommes. Ils étaient là, eux-mêmes, courbés, prosternés devant le Seigneur, et on priait pour eux, de façon à ce que, si par exemple le Saint-Esprit n'eût pas été d'accord sur l'un d'eux ou sur quelqu'un, cela puisse être connu. On priait objectivement et ensuite, après la prière, on leur imposait les mains, de façon à signifier que l'Église était avec eux et les investissait de cette fonction devant Dieu. Troisième observation, tous les hommes qui sont désignés là, les sept hommes désignés dans le verset 5, portent tous des noms grecs. Et ils appartiennent donc au même milieu que les veuves oubliées. Ils sont eux aussi des juifs, hein, des pays hellènes. Parmi eux, nous voyons figurer Étienne et Philippe, qui vont devenir évangélistes. Et ainsi, vous voyez, l'Église a eu cette sagesse d'accepter, puisque c'était du côté des veuves des hellénistes qu'était venue la difficulté, d'accepter que ce soit précisément des Hellènes qui aient à s'occuper des distributions. Comme ça, toute assurance de justice et d'équité pouvait être donnée aux personnes qui avaient signalé les irrégularités. Une quatrième observation. Les diacres, vient du terme grec diakonéine, ce qui veut dire tout simplement servir. Et ce terme grec de diakonéine est appliqué aussi bien au ministère de la parole qu'à celui de diacre. L'apôtre, le pasteur, l'évangéliste sont tous des gens qui servent, et ce même terme leur est appliqué. Tous sont serviteurs, et il n'y a pas de fonction dans l'Église qui soit jugée inférieure à d'autres. Rappelons-nous la démonstration, je ne vais pas la relire maintenant, de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 14. Si le pied disait à l'œil, moi je suis en bas, moi je suis toujours sur la poussière, la terre, je suis toujours sali, toi tu domines là-haut, et tu vois, tu regardes au loin, n'est-ce pas, combien ta fonction est supérieure à la mienne. Eh bien non, ce raisonnement n'est pas admissible. Et l'apôtre Paul nous dit que les membres les moins honorables, eh bien, Dieu leur donne un surcroît d'honneur pour qu'ils soient au même niveau que les autres. Il y a égalité dans l'Église. Et les ministères ne détruisent pas cette égalité. Pierre et Jean se nommeront anciens comme les autres. Il y a des charges dans l'Église. Ce sont des charges. Les ministères sont donnés pour assurer des charges. Ils sont donnés à l'Église pour des charges. Mais ceux qui exercent ces charges ont droit à la considération, un certain honneur, disons, de la part des membres de l'Église, parce qu'ils assurent ces charges, mais ils sont, comme les autres, ils sont sur un pied d'égalité avec les autres. C'est le cléricalisme qui détruira cela. Eh bien, ce matin, nous allons nous arrêter ici.